Bonjour mes frères et mes sœurs. Qu'est-ce que la crainte? La crainte de quelque chose. Et qu'est-ce que la peur? La peur de quelque chose. Y a-t-il une différence entre la crainte et la peur? Si la réponse est affirmative, quelle est cette différence? La Bible parle souvent de crainte, la crainte de l'Éternel. Ce n'est pas mon sujet, car la crainte de l'Éternel, là, on joue avec les mots. Cette crainte est synonyme d'obéissance à Dieu, de respect envers Dieu, de faire ce que Dieu vous dit. Autrement dit, se soumettre à la volonté de Dieu, c'est dans ce sens que la crainte de l'Éternel est employée dans la Bible. Aujourd'hui, je vais parler d'un autre sentiment, d'un sentiment qui est tout à fait humain, physique, dans le domaine physique. Et je parle de peur. Là, on peut, si vous voulez, mélanger les mots peur et crainte, mais dans le sens toujours physique. Il y a des gens, par exemple, qui ont peur de tout. Peur de sortir, peur d'être seul, peur de grimper, mettons, à la montagne. Il y a autrement dit, des phobies. Nous avons toutes sortes de phobies. Ce n'est pas là mon sujet non plus. Je parle maintenant de la peur d'une façon générale, car ce monde vit dans la peur constante. Savez-vous pourquoi? Parce que ce monde aujourd'hui est sous la domination de Satan, le diable. Et Satan, le diable, est le père de ceux qui ont peur, ou bien est le père qui a commencé la peur, la crainte dans ce sens. Je m'explique. Comme je viens de dire, il y a des gens qui ont peur de tout. Peur de mourir même, peur de sortir, ou bien peur d'échouer. Et ça, c'est un danger. D'une façon générale, nous devons savoir que Dieu nous a créés afin que nous puissions réussir dans notre vie. Dieu ne veut pas qu'aucun de nous échoue. Dieu a un dessein sur cette terre. Il veut que nous parvenions à accomplir notre part afin que nous puissions arriver dans son royaume. C'est ça le dessein. Nous sommes des êtres humains physiques. Un jour, nous serons des êtres spirituels. Mais la crainte de ne pas réussir, c'est ça qui crée en nous toutes sortes de doutes. Et il y a Satan le diable qui est toujours là pour nous pousser à dire « Non, tu ne vas pas réussir. Non, tu ne peux pas. » Et il va jouer avec nos sentiments physiques. Voilà pourquoi je prends ce sujet d'une façon différente, dans le sens que si vous êtes vraiment chrétien, devriez-vous avoir peur de quelque chose en ce bas monde? Votre crainte de l'Éternel dans le sens biblique ne devrait pas être plus forte que toute crainte en ce qui concerne l'humanité, les hommes, la nature même. Pourquoi devriez-vous avoir peur de quelqu'un si Dieu est votre partenaire? Vous savez, commençons par 1 Jean chapitre 4. Un chapitre extrêmement intéressant parce que dans ce chapitre, vous pouvez voir la définition de l'amour. On peut définir l'amour de toutes sortes de choses, de façons. Et j'ai souvent fait des sermons sur l'amour. Mais regardez voir comment l'apôtre Jean définit l'amour d'une seule phrase, d'un seul verset. 1 Jean chapitre 4, verset 18, il dit « La crainte n'est pas dans l'amour. » La crainte n'est pas dans l'amour. Mais l'amour parfait bannit la crainte. Prenez le temps de réfléchir. Nous parlons de crainte. Nous parlons d'amour. Et ici, l'apôtre Jean dit qu'il n'y a pas de crainte dans l'amour. Donc, si je crains Dieu de la bonne façon, je n'ai pas peur de Dieu. Si je crains, mettons, mon adversaire de la bonne façon, je n'ai pas peur de mon adversaire. Si j'aime Dieu, si j'aime mon prochain, je n'ai pas peur de Dieu ni de mon prochain. Mais comprenons bien, je ne parle pas de compromis. Je parle maintenant bibliquement parlant, ce que c'est que cet amour. L'amour nous unit. Dieu veut que nous puissions réussir, je répète. Dans ce cas-là, tout ce que nous faisons doit être conforme à sa volonté. Voilà pourquoi je répète ma question. Principal, qu'est-ce que, où est la base même de la crainte, de la peur qui existe en ce bas monde? Eh bien, c'est très simple, vous savez. Si vous pensez vraiment et honnêtement, vous pouvez comprendre que la peur a commencé sur cette terre avec l'influence de Satan sur l'être humain. Car, prenez l'exemple du premier couple. Adam et Ève étaient dans un paradis. Ils n'avaient peur de rien. Ils étaient même nus. Ils n'avaient pas honte d'être nus. Ils étaient avec les animaux, les créatures. Il n'y avait rien de mal ou de mauvais dans cette, entre guillemets, puis réellement le paradis. Qu'est-ce qui se passe? Voyez-vous, Dieu avait donné l'ordre et ils ont désobéi à l'ordre de Dieu. Dès ce moment-là, ils ont eu peur de Dieu. Intéressant. Pourquoi peur de Dieu? Dieu était leur créateur. Dieu a tout donné à ce couple. Et tout d'un coup, ils ont peur. Ils ont peur parce qu'ils ont désobéi à l'ordre de Dieu. Ça, c'est la base. Une fois qu'il y a désobéissance, automatiquement, la peur s'ensuit. Laissez-moi vous référer à l'attitude d'Adam et d'Ève sous l'influence de Satan. Parce que ça, c'est vraiment intéressant. Parce que, voyez-vous, Dieu était leur parterre, parlait avec eux. Et voilà qu'un beau jour, Genèse chapitre 3, après avoir, eux, mangé du fruit défendu, tout d'un coup, l'homme, enfin, la femme, commence à se défendre. Verset 9, Genèse 3. Regardez voir ça. Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? L'homme, regardez-moi, ils ont parlé avant, auparavant. Tout d'un coup, l'homme, après avoir mangé du fruit défendu, dit, j'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai eu peur. Tiens. Mais pourquoi? Parce que je suis nu. Autrement dit, tout d'un coup, ils sont capables, ils se voient, ils voient donc d'une façon tout à fait différente. Et automatiquement, Dieu lui a dit, mais qu'est-ce que tu as pris? Tu as peur? Tu es nu? Il dit, eh bien, c'est la femme. Autrement dit, on commence à porter le blâme sur quelqu'un d'autre. L'homme blâme la femme blâme le serpent, ainsi de suite. Et autrement dit, on finit par blâmer Dieu. Donc, la base est ceci. Dès que vous désobéissez à Dieu, automatiquement, vous avez peur. De même, dès que vous obéissez dans le domaine physique à quelque chose ou à quelqu'un qui est au-dessus de vous, et vous avez peur de lui. Prenez l'exemple d'un gendarme. Voyez-vous, pour autant que vous n'ayez rien fait de mal, si un gendarme est à côté de vous, vous n'avez pas peur de lui. Enfin, vous pouvez me regarder avec un sourire. Mais supposons que vous avez volé quelque chose. Et que vous voyez gendarme à côté de vous. Supposons que vous ayez tué quelqu'un. Le gendarme est à côté de vous. Supposons que vous avez, en quelque sorte, violé une loi quelconque, civilement parlant. Et le gendarme est à côté de vous. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez peur. Et dès ce moment-là, le gendarme devient pour vous un ennemi. Voyez-vous, mes frères et mes sœurs, c'est ce sentiment que nous avons à l'égard de Dieu souvent. Nous transgressons ses lois, comme Adam a fait, comme Ève a fait, et ensuite nous avons peur. Nous ne devons jamais craindre Dieu si nous faisons ce que Dieu nous dit. La crainte de Dieu est salutaire. C'est quelque chose de juste, c'est quelque chose de bon. Mais lorsque nous avons peur, c'est qu'il n'y a pas de désobéissance. Continuons. Dans ce monde où il y a tellement de dangers, s'il y a un danger quelconque, voulez-vous vous approcher de quelqu'un, souvent même prendre la main de quelqu'un pour vous rassurer. Et c'est normal. Vous cherchez de l'aide. Un petit enfant, ça veut succès. Dès que l'enfant a peur, il cherche la main de sa maman ou de quelqu'un qui est tout près. De même, si nous sommes vraiment enfants de Dieu, nous devions chercher la main de Dieu en cas de danger. Mais pour pouvoir être sûr que Dieu nous répondra et que nous aurons la paix d'esprit, nous devons être sûrs que nous faisons notre part. Et c'est ça la base. ayant toute chose, cette assurance que Dieu vous aime, certes, mais en même temps, ayant toute chose, cette assurance que vous faites votre part. Je donnerai quelques exemples aujourd'hui dans la Bible pour vous montrer justement la différence entre la peur et la crainte. Mais en plus de cela, je vais aussi vous montrer, bibliquement parlant, comment être sûr, toujours sûr, que dans n'importe quelle situation, vous êtes toujours vainqueur si vous avez Dieu en tant que partenaire. Et ça, c'est vrai. Satan, le diable, n'a aucun pouvoir sur vous. Il n'a aucune puissance, sauf la puissance, le pouvoir que Dieu lui donne, et Dieu l'empêchera, mettons, qui vous nuise à vous si vous êtes sous le pouvoir de Dieu, si vous vous soumettez à Dieu, si vous respectez les commandements de Dieu. Autrement dit, l'obéissance à Dieu dresse une barrière autour de vous. Et cette barrière empêche Satan de s'approcher de vous. Comprenez bien ce que je dis. Autrement dit, vous vous faites une sorte de cuirasse, une barrière. Satan ne peut pas vous toucher parce que vous êtes sous la protection divine. Une fois que vous avez cette compréhension de base, mes frères et mes sœurs, vous n'aurez jamais peur de quoi que ce soit. Certes, nous sommes humains. Certes, nous avons des peurs, mais ce sera des choses passagères. Ce sera des choses qui viennent et qui passent et qui ne nous empêchent pas de dormir en paix, d'être en paix, de vivre en paix. Mais la plupart du temps, si vous examinez vous-même, vous verrez que vos craintes ne sont pas justifiées. Romains chapitre 13. Romains chapitre 13. L'apôtre Paul, justement, vous donne l'exemple dont je vous parlais en ce qui concerne un gendarme qui peut être tout près de vous. Regardez comment il explique ceci. Et ça, ce principe s'applique dans toutes les circonstances. Romains chapitre 13, plutôt, je m'excuse. 13. Paul commence à nous dire, et c'est tout à fait juste, que toute personne, verset 1, soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et ça, c'est important. Voyez-vous, là encore, lorsque vous lisez la Bible, vous verrez que cette soumission, c'est toujours en Christ. La femme se soumet à son mari en Christ. L'homme se soumet au gouvernement, mettons, c'est toujours en Christ. Nous devons toujours obéir à une autorité, mais cette autorité doit d'abord être le Christ. Mais sous le Christ, il y a d'autres autorités, des autorités humaines, auxquelles nous devons obéissance, pour autant qu'il n'y ait pas de différence entre l'ordre que l'autorité nous donne et que la Bible nous donne. Autrement dit, s'il y a un choix à faire entre l'obéissance à Dieu et l'obéissance à une autorité humaine, si cette autorité humaine vous impose quelque chose qui est contraire à la Bible, dans ce cas-là, vous devez obéir, bien sûr, à Dieu. Si vous ne faites pas, vous serez châtié peut-être, puni peut-être par les hommes, mais vous serez béni par Dieu. Comprenez bien, là encore, c'est une autre vérité importante. Si j'obéis à Dieu, parfois, je paye les conséquences en ce qui concerne les hommes. Mais cette conséquence n'est rien, ce châtiment n'est rien à comparer au châtiment que Dieu pourrait nous imposer, car la désobéissance à Dieu produit à la rigueur la mort éternelle. Je ne sais pas si vous me suivez ou non, mais voyez-vous, ce que je vous dis là, c'est extrêmement, extrêmement important, dans ce sens que nous sommes tous, humainement parlant, sous l'influence de la crainte, en ce monde, de peur. Car Satan, je répète, est celui qui sème la crainte. Satan est celui qui veut que nous ayons peur. Satan se manifeste même, lui et ses anges, ses démons si vous voulez, de façon à ce qu'il nous, à ce qu'il crée autour de nous la peur. Prenons un exemple de désobéissance, ou bien de ne pas faire votre devoir. Supposons que vous avez un devoir à faire et que vous ne faites pas ce devoir, et ensuite vous devez rendre compte. Alors, vous vous justifiez, et en vous justifiant, vous mentez souvent, et vous dites des choses qui ne sont pas justes, et en plus de cela, vous avez peur. Prenons l'exemple que le Christ a donné dans Matthieu chapitre 25. Un simple exemple, mais qui nous explique quand même comment la peur peut commencer dans notre esprit, dans nos cœurs. C'est une parabole très courte, très claire en quelque sorte, mais une parabole qui doit nous faire réfléchir. Matthieu 25, la parabole d'un homme qui part pour un voyage, c'est un langage symbolique, appelle ses serviteurs, leur remet ses biens, donne 5 talents à l'un, 2 à l'autre, verset 14-15, Matthieu 25, et 1 au troisième. Regardez voir. D'abord, il n'y a pas d'injustice parce que Dieu donne à tout le monde selon la capacité de chacun, verset 16. Ensuite, il revient, qu'est-ce qui se passe? Celui qui avait reçu 5 talents en gagne d'autres. 5 autres, pas de problème, formidable. Il a sa récompense. Dieu lui dit, écoute, tu as fait un bon travail, entre dans ma joie. Je paraphrase. Celui qui avait reçu 2 talents, la même chose. Oui, il fait quelque chose. Il a produit 2 autres talents. Et lui aussi reçoit la même récompense. Le maître lui dit, serviteur bon et fidèle, tu as bien fait, donc tu as été fidèle en peu de choses. Et donc, entre dans la joie de ton maître. Ici, entre parenthèses, regardez voir la façon dont Dieu s'exprime. La joie de ton maître, c'est le paradis, pas terrestre, mais le paradis céleste, dans ce sens que dans le royaume de Dieu. Donc, celui qui avait fait sa part, alors entra pour entrer dans le royaume de Dieu. Mais qu'est-ce qui se passe avec celui qui n'avait rien fait? Regardez voir ça. Alors, il vient donc au troisième, celui qui avait reçu 2 talents, s'approche, etc. Ah oui. Verset 24, nous voyons un homme qui avait reçu un seul talent. Il se présente devant Dieu, il dit, verset 24, Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Mais comment est-ce qu'il le savait? Voyez-vous, parce qu'il n'a pas fait son devoir, alors tout d'un coup, il se fait des idées. Voilà encore un autre danger. Lorsque vous n'avez pas fait votre part, vous imaginez des choses. Dieu n'est pas dur, Dieu est juste, Dieu est bon. Voilà que cet homme, parce qu'il n'a pas fait son devoir, il pense que Dieu est dur. Il blâme Dieu en quelque sorte. Que tu es dur, qui moissonne où tu n'as pas semé. Ça veut dire quoi? Autrement dit, Dieu est capable de toutes choses, d'accord? Cet homme-là se rend compte. S'il se rend compte que Dieu est capable de tout faire, pourquoi il n'a pas obéi à Dieu? Et qui amasse ou tu n'as pas vanné. Voyez-vous, ce sont des excuses. Des excuses comme celles d'Adam et d'Ève. Commençons par le commencement. Dieu est toujours bon. Dieu ne vous doit rien, vous devez tout à Dieu. Donc, ne commencez pas à vous justifier devant Dieu. Si Dieu vous dit une chose, faites-la. Sans compromis, sans détour, sans vous justifier. Voyez-vous, celui qui avait reçu 5 talents a fait quelque chose. Celui qui avait reçu 2 talents a fait quelque chose. Celui qui a reçu 1 seul talent n'a rien fait. Automatiquement, il cherche une excuse. Et en cherchant des excuses, d'abord, il ment, et ensuite, automatiquement, il a peur. Il dit donc, j'ai eu peur, verset 25. Matthieu 25, verset 25. Il n'a rien fait, il a eu peur. C'est normal. J'ai eu peur, dit-il, et je suis allé cacher ton argent dans la terre. Voici, dit-il, prends ce que tu as, est à toi, ce que tu m'as donné. Et connaissait le reste. Son serviteur n'a pas dit « Entre dans ma joie ». Il est méchant, dit-il, et paresseux. Tu savais que donc, je peux faire toute chose. Pourquoi tu n'as pas fait quelque chose au moins avec l'argent que je t'avais donné? Et vous connaissez le reste. Il a, dans cette parabole, il a perdu sa récompense. Voilà la base de la crainte. Chaque fois que vous désobéissez à Dieu, automatiquement, vous êtes sujet à la crainte ou bien à la peur. Et ça arrive toujours. Avant-hier, je parle avec quelqu'un encore. Voyez-vous, cet homme faisait quelque chose lequel n'était pas tout à fait juste aux yeux de Dieu. Il le savait. Il cherchait des excuses. J'ai dit, écoutez, vous vous trompez vous-même, vous ne pouvez pas tromper Dieu. Tout ce que vous dites, vous tâchez de vous convaincre. Mais en réalité, c'est une vaine conviction que vous cherchez. Si vous savez que ce que vous faites, ce n'est pas juste, arrêtez-le. Ne cherchez pas d'excuses. Autrement, vous vivrez, non pas seulement sous cette crainte du lendemain, mais vous n'aurez pas la paix d'esprit. Et c'est vrai. Mes frères et mes sœurs, si vous voulez avoir de la paix d'esprit, ayez le cœur net devant Dieu. Débarrassez-vous de tout péché, pour autant qu'on puisse le faire. Et si vous avez fait des fautes, commis des fautes, demandez à Dieu, même demandez pardon à vos prochains. Et autrement dit, soyez aussi innocent, entre guillemets, que possible. Alors vous n'aurez pas peur. Vous n'aurez pas peur d'être malade. Et vous êtes malade, vous n'aurez pas peur de mourir. Vous n'aurez pas peur d'être seul parce que, comme le Christ a dit, Dieu est toujours avec moi. Je connais des gens qui sont solitaires, des veuves, d'accord. Mais je connais aussi parmi eux des personnes qui sont très heureuses. Des gens qui ont de la paix d'esprit parce que, voyez-vous, ils ont Dieu avec eux. Ils ont le Christ avec eux. Tandis que d'autres, qui n'ont pas près de la présence de Dieu, être solitaire pour eux, c'est une torture. Et c'est normal. Si nous pouvions tous comprendre la différence entre l'obéissance et les bénédictions, et les malédictions qui suivent lorsque nous nous détournons de Dieu, nous comprendrions ce que c'est que la peur. La peur n'est pas vraiment fondée si nous sommes enfants de Dieu et qui avons reçu son esprit et qui savons que Dieu nous aime. Eh oui, je sais que humainement parlant, nous sommes sujets, mais ça, ce n'est pas, franchement parlant, une excuse. Le fait est que nous devons, nous, avoir cette certitude absolue que Dieu va nous protéger, quelles que soient les circonstances. Considérez maintenant un autre exemple biblique, si vous voulez, de Joseph. J'ai souvent pris ce sujet parce que c'est aussi intéressant de voir Joseph, vers chapitre 37 Genèse, là encore je donnerai en gros l'histoire. Le père de Joseph, Jacob, l'aimait plus qu'il aimait les autres enfants. Ça ne veut pas dire qu'il n'aimait pas les autres enfants, mais il aimait plus parce que, vous savez, parfois on a des amis qui sont plus amis que d'autres, et c'est normal. Parmi les disciples du Christ, il y avait Jean qui était plus proche du Christ. C'est normal. Mais ça ne veut pas dire que le Christ n'aimait pas les autres apôtres, non. Ici donc, vous avez le père de Joseph, Jacob, qui aimait Jacob, qui aimait Joseph. Et voilà que les autres frères étaient jaloux. Voyez-vous, voilà, automatiquement, la jalousie va produire la peur. Évidemment, eux, ses frères ne se sont pas rendus compte de cela. Ils ont vendu, comme vous savez, Joseph à des Madianites. Et ils avaient toujours la crainte dans leur esprit qu'un jour quelque chose peut arriver. Tandis que Joseph, qui était une victime innocente en quelque sorte, n'avait pas peur. Mais quel était son secret? Je vous dis, ce n'est pas la peine que je prenne mon temps à lire. Lisez Genèse 37, 38, 39, 40, 41. Avant de venir à 42, que je vais prendre dans quelques instants. Mais voyez-vous, Joseph avait la paix d'esprit. Il avait obéi, en quelque sorte, à son père, et il savait que quelqu'un lui avait fait, ses frères lui avaient fait du tort, mais il ne leur en voulait pas. Et chaque fois, dans sa vie, c'est intéressant, il a été jeté en prison, il s'est conduit en tant que chrétien. Plus tard, une femme voulait commettre l'adultère avec Lui, il a dit non, je veux obéir à Dieu. Et chaque fois il a été béni, il n'a pas eu peur. Tandis que ceux qui avaient transgressé les lois à côté de lui, à sa compagnie, avaient toujours peur. Vous savez, c'est très intéressant parce que ça peut être votre cas avec des amis qui sont avec vous. Je connais quelqu'un encore qui vraiment ne vit pas dans la paix. C'est toujours, il a peur de quelque chose. Mais je dis pourquoi? Franchement parlant, cet homme-là avait l'esprit oisif. Il n'avait pas quelque chose qui occupait son esprit. Si vous avez l'esprit, je dis oisif, si vous n'avez rien à faire, si vous n'avez pas vraiment d'ambition, la vraie sorte d'ambition, de pouvoir arriver, de vaincre, de réussir, automatiquement vous avez une vie tout à fait vide de sens et vous avez peur. Vous avez peur de tomber malade. Là encore, vous pouvez tomber malade, être tellement proche de Dieu que cette maladie, même si c'était mortel, mettons, ne vous découragerait pas. La chance est que, la plupart du temps, avec cette attitude, vous serez guéri quand même. Car, voyez-vous, lorsque nous soignons quelqu'un qui est malade, laissez-moi vous donner, je fais des détours, mais ça c'est moi. Nous soignons souvent, lorsqu'une personne est malade, et elle nous appelle, alors nous imposons la main au malade, nous l'oignons avec de l'huile et nous prions avec foi. Dès ce moment-là, tout dépend de l'esprit de la personne malade, de son attitude. Si cette personne malade a commis un péché dont elle est consciente, ou bien elle est consciente, mettons, et ne s'en est pas repenti, cet individu aura toujours peur que Dieu n'aura pas exaucé cette prière. Nous ne sommes pas parfaits, personne n'est en disant « Oui, je suis parfait, donc je suis vraiment chrétien ». Je ne parle pas de ça, je parle que si vous avez fait votre part, vous avez la foi lors d'une guérison que vous serez guéri. Mais si vous avez encore un péché qui est caché, il y a beaucoup de chances que vous ne serez pas guéri. Il se peut que vous soyez guéri par la bonté de Dieu, mais là, il y a encore quelque chose qui doit être réparer pour ainsi dire tôt ou tard. Autrement dit, il y a une grande différence, et c'est normal, entre la foi et la peur. Je dirais même que ce sont deux opposés. Si vous avez fait votre part, vous avez la foi et vous êtes fort dans la foi. Si vous n'avez pas fait votre part, si vous désobéissez, vous avez peur et automatiquement vous en êtes victime. Prenons à l'exemple de Joseph. Parce que c'est tellement intéressant dans son exemple, Genèse chapitre 42 d'abord. Non, parce que je voulais avoir tout le chapitre, mais vous pouvez lire, c'est intéressant. Autrement dit, tout au long de cette histoire, les frères de Joseph se sont presque torturés. En fin de compte, lorsqu'il y a eu la famine dans leur pays, lorsque leur père a dit « Allez voir s'il y a donc de quoi nous nourrir en Égypte », alors les frères sont allés et voilà que Joseph se déguise. Joseph, par son obéissance, est monté très haut dans le palais royal. Il était capable de faire tout. Alors, voilà qu'il est maintenant responsable pour nourrir sa famille. Il demande à ses frères, c'est une longue histoire là, il dit, amenez-moi donc mon père ici. Et lorsque, je suis en train de chercher le verset que je cherche, lorsque les frères se présentent devant Joseph, ils ont peur, parce qu'ils se rappellent la faute qu'ils ont commise à son égard. Ils se disent, oh, maintenant Joseph va vraiment prendre sa revanche. Il n'est pas question de prendre une revanche dans la Bible. Lorsque Dieu vous dit quelque chose, et vous faites ce que Dieu vous dit, vous n'avez pas peur d'une punition, d'un châtiment quelconque. Parce que si les frères de Joseph avaient fait leur part, s'ils s'étaient repentis, mettons, ils n'auraient pas eu peur de se tenir devant Joseph. Tandis que, selon la Bible, lorsqu'ils étaient donc avec... Lorsqu'ils étaient avec Joseph, ils se demandaient ce que Joseph allait faire. S'il allait vraiment être fâché contre eux, s'il allait les mettre en prison ou non. Prenons Genèse 45, verset 1. Joseph, donc, ne pouvant plus se soutenir devant tous ceux qui l'entouraient, parce qu'ils étaient, avec ses frères, il dit « Faites sortir tout le monde ». Ensuite, il reste avec ses frères, il élève la voix en pleurant. Les Égyptiens, donc, l'entendirent, et toute la maison de Pharaon l'entendit. Joseph dit à ses frères, voilà qui se dévoile, verset 3, « Je suis Joseph ». Regardez voir la première chose qu'il demande. Regardez voir, voilà l'homme qui craint Dieu. Mon père, dit-il encore. C'est toujours d'abord les autres, non pas moi. Ses frères lui disent oui. Mais il ne peut pas répondre parce qu'ils étaient vraiment troublés à sa présence. Joseph dit, approchez-vous de moi. Il dit, je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Voyez-vous, il n'a pas cherché d'accusation. Il aurait pu dire, vous m'avez trahi, vous m'avez vendu, vous êtes coupable, ainsi de suite. Non, voilà l'essence, la différence de sentiment qui crée ou qui détruit la crainte dans votre cœur. Il avait pardonné, c'était fini. Il dit que vous m'avez vendu, c'était la vérité, il fallait qu'il charge, pour être conduit ici. Car, dit-il, c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Il ne dit pas que ce qu'ils ont fait, c'était par Dieu, mais Dieu a profité de cette occasion afin que Joseph puisse sauver la vie de son père et de ses frères. Comprenez-vous la différence? Dieu prend chaque occasion et il l'emploie de façon à ce que quelque chose en sorte, comme c'est marqué dans Romains chapitre 8, verset 28, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Ici, Joseph aimait Dieu. Il a été appelé selon le dessein divin. Il a fait sa part et toutes ces choses se sont donc ont collaboré à ce qu'il réussisse malgré toutes les attaques, malgré toutes les persécutions. Mais vous, ça vient, cette connaissance, lorsque vous êtes proche de Dieu. Alors il dit donc, Dieu m'a appelé pour vous faire vivre par une grande délivrance. Ce n'est donc pas vous, dit-il, qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Et c'est vrai. Autrement dit, Dieu, je répète, prend une occasion quelconque afin que les choses marchent pour votre mieux, avancent pour votre bien, et que même des malédictions contre vous, même la méchanceté commise contre vous, que ça tourne en bien. Vous savez, ce n'est pas les sentiments que vous avez, mais ça, lorsque je lis ça, je dis, c'est incroyable de voir cette attitude. Avoir cette attitude, c'est fantastique, c'est merveilleux. J'aurais voulu que tous, moi, en premier lieu, nous puissions avoir cette attitude. Pensez ainsi. Avoir le cœur net. Lorsque vous êtes devant quelqu'un que vous avez du tort, ne pas avoir contre lui des sentiments mauvais. La haine, surtout pas haine. Parce que la haine vous détache, vous détruit, vous sépare de tout ce que Dieu a créé. Vous fait détourner de Dieu. Le Christ a dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le Christ a dit, tu aimeras ton ennemi comme toi-même. Le Christ a dit, tu demanderas à Dieu que Dieu bénisse ton ennemi. Il dit, tu prieras pour ton ennemi. Voilà. Matthieu 5, verset 44-45. Priez pour votre ennemi. C'est une garantie absolue pour votre paix d'esprit. Vous ne pouvez pas craindre l'adversaire si vous priez pour votre adversaire. Voyez-vous, ce sont des vérités de base. Continuons. Prenez le temps de lire la vie de Joseph, ça vaut la peine, mais continuons. Prenez les Israélites. Les Israélites demandaient à Dieu qu'il les fasse sortir d'Égypte. Dieu les a fait sortir. Mais dès qu'ils sont sortis, Exode chapitre 14, et ils ont vu l'armée de Pharaon derrière, ils ont eu peur. Pourquoi ont-ils eu peur? Parce que, voyez-vous, ils n'étaient pas convaincus que c'est Dieu qui les conduisait. Dieu a fait 10 miracles, même avec ça, leurs yeux étaient encore tout à fait aveuglés. Et qu'est-ce que Dieu a dit? Regardez cette phrase, mes frères et mes sœurs, doit être dans nos cœurs à tout jamais. Quoi qu'il arrive dans votre vie, quelles que soient les souffrances que vous avez, quelles que soient les difficultés qui vous fassent, mettons, souffrir ou bien hésiter ou perdre foi, rappelez-vous une chose, Dieu est toujours avec vous. Il a dit aux Israélites qui sont sortis d'Égypte avec la peur dans leur esprit, dans leur cœur, Dieu a dit, Exode 14, 14. Voyez-vous, c'est facile. Exode 14, 14. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Si vous avez cette attitude, dans n'importe quelle circonstance, vous serez toujours vainqueur et aucune crainte, aucune peur ne peut vous faire souffrir vraiment de façon dramatique. Prenons dès le commencement de la Bible, Deutéronome. Deutéronome, c'est le livre des lois. Dans Deutéronome, Dieu résume en quelque sorte les lois. Regardez voir ce qu'il a dit à son peuple dès le commencement en ce qui concerne les lois. Deutéronome chapitre 1. Je prends maintenant une partie. Alors, Deutéronome chapitre 1, verset 29. Ne vous épouvantez pas. Autrement dit, n'ayez pas peur. Voilà. Ne vous épouvantez pas. N'ayez pas peur de cet adversaire. L'Éternel, votre Dieu, qui marche devant vous, combattra lui-même pour vous. C'est exactement ce qu'il a dit dans Exode. C'est ça que nous ne pouvons pas comprendre, nous autres humains. Nous ne pouvons pas comprendre que Dieu combat pour nous. Laissez Dieu combattre. Si Dieu est avec vous, personne ne peut vous faire du tort. Si, on peut vous faire du tort, mais ça ne sera pas grave. Vous aurez toujours la force de garder la paix d'esprit. Il dit, votre Dieu qui marche devant vous, verset 30, lui-même combattra pour vous, selon tout ce qu'il a fait pour vous, sous vos yeux. Ensuite, il dit, répète, n'ayez pas peur, ainsi de suite. Là encore, enfin, vous n'avez qu'à continuer parce que j'ai encore tellement de choses à dire. Mais ça, c'est ce que Dieu veut que nous fassions. Prenez maintenant un autre exemple, maintenant dans le Nouveau Testament, et pour vous montrer ce que c'est que la crainte ou la peur. Les apôtres du Christ n'étaient pas convertis dans ce sens qu'ils n'avaient pas reçu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est descendu lorsque le Christ est mort et a été ressuscité. C'est après cela seulement que le Saint-Esprit est descendu. Donc, au vivant du vivant de Christ, aucun des apôtres n'avait reçu encore le Saint-Esprit. Ayez ça en tête. Certes, le Saint-Esprit était avec eux. Il y a une différence. Le Saint-Esprit était avec eux pour les guider, pour les protéger, pour les aider. Mais le Saint-Esprit n'était pas en eux parce qu'il n'était pas encore descendu. Alors, regardez ici l'attitude de l'apôtre Pierre. Pierre était un homme courageux, comme vous savez. Il pensait avoir le courage, mais sans l'Esprit de Dieu, vous n'avez pas de courage. C'est futile, c'est rien, c'est vide. Ça fait beaucoup de bruit, mais rien d'autre. Oui, je suis courageux. Non, votre courage réel vient de Dieu. Votre courage vient de l'obéissance, de votre obéissance à Dieu. Parce que c'est ça votre rempart, c'est ça votre force. L'apôtre Pierre avait une bonne attitude, mais c'était un peu vide. Parce que, voyez-vous, lorsque le Christ a été arrêté, il a trahi le Christ, il a menti. Bon, Le Christ lui a pardonné parce qu'il connaissait le cœur de Pierre. Et prenons voir ici un exemple avant d'arriver à ce point-là. Matthieu chapitre 14. Un bon exemple de voir exactement comment être sûr d'être sous la protection divine et comment être sûr de ne pas avoir peur. C'est un exemple réel parce que vous pouvez voir ce qui s'est passé à l'apôtre Pierre. Matthieu chapitre 14, je prends encore moitié d'un verset, verset 23. Donc, le Christ monte sur la montagne pour parler à l'écart. Et comme le soir était donc venu, il était là seul. La barque, ils étaient dans une barque, les apôtres, verset 24, la barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était très fort. À la quatrième heure de la nuit, Jésus alla vers eux, marcha sur la mer. Il voulait donc encourager les disciples. Les disciples, je paraphrase verset 26, lorsqu'ils le voient, ils eurent peur. Ils furent troublés, voyez-vous. C'est même plus que peur. Ils étaient effrayés. Parce qu'ils voient le Christ d'abord marcher sur l'eau. Et ensuite, ils voient le bateau couler. Alors, qu'est-ce qu'ils fassent? Ils furent troublés. Ils dirent, d'abord, ils n'ont pas cru, c'était un fantôme. Ensuite, ils poussèrent des cris de frayeur. Voyez-vous, cette crainte n'est pas normale si vous êtes proche de Dieu, à tout point de vue. Alors, ils poussèrent des cris. Le Christ, verset 27, le dit, rassurez-vous. Voyez-vous, ce petit mot, rassurez-vous. Laissez-moi encore m'arrêter ici pour faire un petit détour. Chaque fois que le Christ a paru devant ses apôtres, par exemple, après sa résurrection, il dit « Que la paix soit avec vous. » C'est intéressant. D'abord, il va les rassurer. « Que la paix soit avec vous. » Si la paix est avec vous, vous n'avez pas peur. Il n'y a pas de sentiment qui vous tue, pour ainsi dire. Mais revenons ici à notre histoire. Donc, les apôtres sont étonnés. Et lorsque le Christ dit « Rassure-vous », dit-il « C'est moi. » Tout d'un coup, Pierre prend courage et dit « Seigneur, si c'est vraiment toi, ordonne que j'aille vers toi. » Voyez-vous, ça c'est le désir qui est juste. Pierre voulait faire ce qui est juste. Pierre voulait être courageux. Bon, il était courageux. Jusqu'à quel point? Et quel était son secret? Alors, le Christ a dit, « Bon, viens. » C'est bien. Dieu vous dit, « Viens. » Alors, vous y allez. Donc, si vous êtes vraiment convaincu et que Dieu vous dit, « Viens. » Écoutez, il n'y a aucune raison pour que vous n'alliez pas. C'est ce qui s'est passé avec Pierre. Il s'est levé, il sortit de la barque. Regardez voir ce que la Bible dit, verset 29. Il marcha sur les eaux. Regardez voir ça. Il marcha sur les eaux. On ne peut pas dire que c'est en français, non. Il marcha sur les eaux. Aussi longtemps qu'il avait les yeux sur le Christ. Verset 30, mais voyant le vent était fort, Pierre eut peur. Comprenez-vous? Dès que vous détachez les yeux du Christ, vous avez peur. Ça, c'est un exemple, si vous voulez, frappant, d'accord, mais quelque chose qui est dans notre vie, à chaque instant, qui est présent là. Devant un danger, vous pouvez faire quelque chose. Dieu vous dit, écoute, je suis avec toi. Pour autant que vos yeux sont sur le Christ, vous n'aurez pas peur. Mais que vous vous détournez du Christ, vous voyez le danger, automatiquement vous avez peur. Et si vous avez peur, vous échouez. Échec. Échec et peur sont synonymes. Tandis que foi et obéissance sont synonymes aussi de réussite et de succès. Une fois que vous comprenez ces vérités de base, vous comprendrez l'amour de Dieu qui est toujours là pour nous aider, pour nous protéger. Prenez-les, David. Je prends des exemples. La Bible est pleine d'exemples en ce qui concerne les prouesses de David. David était un homme courageux, humainement parlant. Certes, il savait que c'est Dieu qui donne la force, Mais quand il était jeune, il est allé marcher contre les Philistins, contre Goliath, par exemple. Mais plus tard, quand il a vraiment reçu l'inspiration de Dieu, du Saint-Esprit, il a fait ses psaumes. C'est beau de lire les psaumes de David, où vous pouvez voir le courage dont il fait preuve, ou bien le courage qui nous inspire. Laissez-moi donner deux ou trois exemples d'un psaume. La façon d'être assuré de la protection divine. Je dis, il y a tellement, mais laissez-moi seulement vous donner quelques-unes de ces exhortations, quelques-uns de ces versets où vous pouvez voir ce que c'est que vraiment faire confiance à Dieu. Psaume 27. Psaume 27. Il est tellement difficile de choisir parce qu'il y a tellement, comme je dis, mais si on prend la base, vous comprendrez déjà l'essence même de cette certitude que Dieu vous protège, Dieu vous protégera. Verset, donc, Proverbe 27, verset 13. Je ne suis pas encore moitié. Oh, dit-il, je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Mais voyez-vous, avant ça, au verset 3, il dit, je serai, dit-il malgré tout, en plein de confiance. Je demande à l'Éternel, verset 4, une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie, dit-il, dans la maison de l'Éternel, pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Autrement dit, cette confiance que David a se manifeste plutôt au verset 8. Il dit, par exemple, au verset 8, deuxième partie, « Je cherche ta face, dit-il au Éternel, ne me cache point ta face. » Ensuite, « Tu es mon secours, verset 9. » Ainsi de suite, ne m'abandonne pas. Voyez-vous, c'est cette attitude qui vous donne la force dont vous avez besoin. Avec ce genre de certitude, vous ne pouvez jamais avoir peur. Si vous aurez peur, mais vous pouvez vaincre vos craintes facilement parce que vous savez que Dieu est avec vous. Bon, continuons, prenons notre psaume. Comme je dis, il y a tellement, psaume 48 par exemple. Juste une petite phrase, psaume 48, et verset 6. Lisez les psaumes. Lorsque vous avez des doutes dans votre esprit, lorsque vous avez une crainte quelconque, lisez les psaumes. Psaume 48, et verset 6. Dieu est au milieu d'elle, dit-il. Elle n'est point ébranlée. Dieu la secourt. Dieu la secourt de l'aube du matin. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix. La terre se fond d'épouvante. L'Éternel des armées, dit-il, est avec nous. Voilà. Ça me suffit. Si je sais que l'Éternel des armées est avec moi, quoi qu'il arrive, je suis protégé. Il dit, le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Vous savez ce que c'est qu'une haute retraite? C'est, vous êtes protégé. Je prends des versets comme vous pouvez voir, où je vous donne des exemples où la Bible vous montre comment Dieu peut vous aider dans des moments de crainte, de difficulté. Il y a tellement dans les psaumes, je ne sais pas, je ne saurais pas où m'arrêter. Prenez par exemple, oh oui, peut-être ça, il faut que je fasse, psaume 37. Alors là, ça vaut la peine de voir les psaumes tout entiers, parce que c'est tellement réconfortant de voir comment psaume 37 nous donne le caractère de Dieu, comment Dieu nous donne l'assurance qui est toujours avec nous. Par exemple, je prends juste quelques-uns des versets. Verset 4, « Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. » Quelle magnifique promesse. Verset 7, « Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies. » Ensuite, un peu plus loin, vous pouvez voir « Laisse la colère », verset 8. « Abandonne la fureur. Ne t'irrite pas, ce serait mal. Ce serait mal faire. Car les méchants, dit-il, seront retranchés, mais ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays, c'est-à-dire le royaume. » Voyez-vous, lisez la Bible de cette façon-là. Lisez la Bible pour savoir comment vous pouvez apprendre votre leçon, parce que ces choses sont importantes, sont indispensables au moment où vous en avez le plus besoin. Vous savez, quand vous êtes en bonne santé, vous n'avez pas besoin vraiment de vous dire « Oh ben, je m'occupe de ce dont j'ai besoin pour être guéri » parce que vous êtes en bonne santé. C'est lorsque vous êtes malade que vous cherchez de l'aide. La même chose, nous, en ce monde malade, nous sommes exposés aux attaques de Satan. Nous avons besoin de nous approcher de Dieu et d'être toujours sa main, chercher la main. Chercher la main de Dieu comme un enfant cherche la main de ses parents en cas de danger. Nous sommes aujourd'hui dans un monde plein de dangers. Et nous avons besoin à chaque instant de cette assurance que Dieu est avec nous. Mes frères et mes sœurs, je ne peux pas vous dire franchement pardon, mais si vous pouviez voir les lettres que nous recevons, des gens qui sont pauvres, des gens qui espèrent en Dieu, des gens qui voudraient voir un changement. Ce changement peut arriver, va arriver, mais peut arriver plus facilement, plus vite, si vous faites votre part. Vous connaissez Dieu, vous connaissez ses promesses, vous savez comment il a sauvé l'ancien Israël de la main des Égyptiens. Vous savez fort bien que nous sommes au temps de la fin, et nous avons tous besoin d'être sauvés. Ce salut ne peut venir que de Dieu. Mais ce salut ne peut venir que de Dieu si nous faisons notre part, afin que nous puissions aider notre prochain. Je vous dis, pour moi, c'est tellement évident de voir ce qui se passe, mais nous pouvons aussi voir que la plupart des gens ont les yeux aveuglés. Nous devons les aider, non pas en nous vantant nous-mêmes, mais en nous abaissant nous-mêmes, en laissant les gens voir que c'est Dieu qui fait et que nous sommes des serviteurs devant lui. Prenez voir les exemples que le Christ donne dans Apocalypse, chapitre 2 et chapitre 3. Ces deux chapitres décrivent les deux phases. Je dirais les sept phases plutôt de l'Église de Dieu. Le Christ n'a pas fondé plusieurs églises. Le Christ a fondé une seule Église. Cette Église a passé par des étapes différentes. Et chacune des étapes que vous pouvez voir dans Apocalypse 2, Apocalypse 3, a des qualités et aussi des défauts. Mais ce qui est intéressant, dans chaque exhortation que le Christ donne à chaque église. J'ai fait un sermon sur ça. Mon idée, c'est souvent prendre une seule idée ici. Chaque église reçoit la même recommandation, qui est la suivante. Par exemple, prenez chapitre 2, verset
Il parle à l'église de Smyrne, etc. Il dit, celui qui a... Il parle d'abord la force de Dieu. Ensuite, voilà la recommandation. Celui, voyez-vous, chapitre 2, chapitre 3, les deux chapitres, la même chose, c'est toujours celui qui vaincra. Celui qui vaincra jusqu'à... Donc, sera sauvé. Par exemple, prenez verset 17, que celui qui a des orientations, etc., à celui qui vaincra, verset 17, chapitre 2, celui vaincra. Vaincre, c'est le mot. Un peu plus loin, la même chose que celui qui vaincra. Chaque église a cette même promesse. Celui qui vaincra, tout à la fin. C'est quoi vaincre? Je veux dire, les sept églises ont cette recommandation. Celui qui vaincra recevra ceci ou cela. Eh bien, la victoire, mes frères et mes sœurs, c'est quelque chose que vous pouvez faire, mais que vous aurez de la garantie de faire si le Christ est avec vous. Humainement parlant, il y a beaucoup de choses qu'on puisse faire. Vous savez, l'autre jour, je pensais à un exemple. Et j'ai parlé à quelqu'un et j'ai parlé de cet exemple. Je me rappelle, il y a longtemps de ça, c'était en 1984, il y avait une jeune fille de 16 ans. C'était en Amérique. Et c'était une athlète. C'était incroyable. Elle était donc à la phase finale de cette concurrence-là, ou bien de cette épreuve. Les autres devant elle avaient presque un score parfait. Elle était la dernière qui restait. Et il fallait qu'elle soit à tout point de vue parfaite et qu'elle fasse une note parfaite à toutes les phases de ce dernier exercice pour gagner la victoire. Vous savez, vous êtes sous stress. Vous avez devant vous deux ou trois qui sont déjà là, championnes, et vous êtes la dernière, ou bien la dernière, pour passer l'épreuve. Vous savez, l'histoire, là, ça m'a beaucoup ému. Du reste, vous pouvez chercher dans le, je pense, website, ou bien site, si vous voulez, son histoire, parce qu'elle a réussi dans sa vie. Mais ce qui m'intéresse là, c'est ce que son entraîneur lui a dit. C'est une phrase qui m'est restée, j'ai fait même par le passé des sermons sur ça. Il a dit à cette petite fille de 16 ans, regardez voir, le monde entier a les yeux sur elle. Il faut absolument qu'elle fasse un score parfait. L'entraîneur lui a dit, écoute, c'est maintenant ou jamais. Ça vous touche. Il dit, donne tout ce que tu as. Je sais pas, cette phrase a dû vraiment impressionner cette fille. Alors, le miracle est arrivé. Elle a été parfaite dans cette épreuve. Et comme je dis aujourd'hui, même encore on parle d'elle dans les, vous pouvez voir. Mais le fait que, voyez-vous, cette phrase doit nous toucher, nous tous. C'est aujourd'hui ou jamais. Nous devons tous donner tout ce que nous avons. Et ce n'est pas toujours le cas, mes frères et mes sœurs. Nous ne faisons pas de notre mieux. Nous n'arrivons pas. La course, ici nous avons, c'est une course. La vie est une course. Notez-le dans 1 Corinthiens chapitre 9. Rappelez-vous cette phrase. C'est maintenant ou jamais. Donnez tout ce que vous avez. Tout ce que vous avez pour réussir. 1 Corinthiens chapitre 9. Il y a tellement d'exemples dans la Bible de victoire. Il y a tellement d'exemples de gens qui veulent réussir. Et vous savez, ce n'est pas difficile de réussir. Si vous faites votre part, autrement dit, débarrassez-vous de vos craintes, humainement parlant. Vous ne pouvez pas faire des choses, d'accord, mais dites, Dieu peut le faire. Si c'est quelque chose que vous devez faire, Dieu peut le faire. Dieu ne vous demande jamais quelque chose que vous ne pourriez pas faire. Rappelez-vous aussi cette vérité. Dieu ne demandera à personne si cet individu n'est pas capable de donner ce que Dieu lui demande. Alors, pourquoi craindre? Pourquoi dire « je ne peux pas » Le mot « je ne peux pas » au point de vue de Dieu, c'est pas vrai parce que Dieu vous donne la force de faire ce qu'il vous demande de faire. En Corinthiens chapitre 9, je disais, Paul justement parle de la vie, Paul parle de la course, si vous voulez, que nous faisons tous. Chapitre 9, 1 Corinthiens 9, verset 24, « Ne savez-vous pas que dit-il ceux qui courent dans le stade, courent tous, mais qu'un seul remporte le prix ? » Vous pouvez être ce seul, autrement dit, ici c'est un exemple. nous sommes individuellement celui qui doit arriver. Il dit qu'un seul remporte le prix. Courait, dit-il, de manière à le remporter. Humainement parlant, voyez-vous cette jeune fille qui combat pour des choses physiques, pour des choses corruptibles, mais dit-il, vous devez combattre, je paraphrase, pour des choses incorruptibles. Voilà le secret. Voilà la clé du réussite. Aujourd'hui, nous sommes à la fin de l'âge, si vous voulez, à la fin des siècles. La Bible parle de 6000 ans d'existence humaine. Nous sommes à la fin de ces 6000 ans. Là, la venue du Christ, l'avènement du Christ, le deuxième avènement est proche. Nous devons tous être sur nos gardes, être sûrs que nous faisons notre part. Car voyez-vous, mes frères et mes sœurs, nous ne savons pas ce que demain nous réserve humainement parlant. Regardez autour de vous. Regardez ces guerres. Regardez ces souffrances aujourd'hui. Pourquoi? Parce que Satan le diable est toujours là. Et au sein de l'Église, la même chose. Lisez Apocalypse chapitre 12, verset 9. Satan est toujours là. Satan voudrait détruire l'Église de Dieu. Satan voudrait faire tout ce qu'il peut afin que cette proclamation de l'Évangile ne se fasse pas. Afin que vous n'entendiez pas ma voix maintenant. Parce que Satan ne veut pas que les gens comprennent la bonté de Dieu. Et Satan voudrait détruire l'Église. Il essaye. Mais il ne va pas réussir si nous faisons nous notre part, si nous devons tout ce que nous faisons tout ce que nous pouvons donner, comme l'exemple que je viens de vous citer. Satan va séduire les membres de l'Église. Il l'a fait, il le fera encore. Il va semer la discordance entre nous. Satan va semer, je dirais, de fausses rumeurs. Ne faites pas attention. Ayez les yeux sur le Christ en disant, écoutez, s'il y a besoin d'un changement, s'il y a besoin de quelque chose de surnaturel que je ne peux pas faire, laissez Dieu agir. Cette phrase, encore, c'est important. Laissez Dieu faire. S'il y a un changement nécessaire, ce n'est pas vous qui devez le faire, à moins que vous ayez le pouvoir. Si vous n'avez pas le pouvoir de faire le changement, laissez Dieu agir. Vous serez toujours victorieux. Ça, c'est la clé même, le secret de la victoire. Laissez Dieu faire. Faites votre part. Ensuite, n'ayez pas peur. Voyez-vous, ça, je dis franchement, voilà le secret de la réussite. Le secret de ne jamais avoir peur de quoi que ce soit. Psaume chapitre 116. 118, je pense. Il y a tellement d'encouragement dans la Bible, je répète. Il y a tellement d'exemples qui nous donnent cette assurance que Dieu entend ce qu'il dit. Si Dieu vous a fait, et m'a fait à moi des promesses, Dieu tiendra toujours ses promesses. Mais faites votre part. N'ayez pas peur. Psaume 118, verset 6. Psaume 118, verset 6. L'Éternel est pour moi, je ne crains rien. Voyez-vous, il n'y a pas des exceptions. L'Éternel est pour moi, je ne crains rien. Que peuvent me faire les hommes? Et pourtant, la plupart du temps, nous avons peur des hommes. Nous avons peur d'un accident, je sais quoi. Si Dieu est avec vous, n'ayez pas peur de quoi que ce soit. Verset 7, « L'Éternel est mon secours. Je me réjouis à la vue de mes ennemis. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. Wow. » Vous savez, ça vous donne des frissons de joie. C'est vrai, nous avons besoin de quelque chose, nous nous tournons vers quelqu'un d'autre. Il n'y a pas de mal à ça, d'accord? Mais ce n'est pas ça dont nous avons besoin. Nous devons toujours nous tourner vers Dieu. Que Dieu soit notre protecteur. Que Dieu soit notre sauveur. Que Dieu soit celui à qui nous adressons à chaque instant. Mieux vaut chercher à l'Éternel que de se confier à l'homme. Mieux vaut chercher, verset 9, en l'Éternel que de se confier aux grands. Eh oui, il y a des grands en ce monde, des chefs d'État, des gens puissants. Mais ces hommes puissants ne sont rien à comparer à la force de Dieu, cette force que Dieu peut vous donner. L'assurance dont vous avez besoin pour réussir dans votre vie. Vous savez quoi? Je n'ai fait que commencer mon sermon, c'est vrai. J'avais tellement de notes ici devant moi. Mais la base est toujours la même. La peur est un sentiment physique. La peur est un sentiment commun, parce que nous sommes tous des êtres physiques. Mais cette peur, nous pouvons nous en débarrasser si nous avons les yeux sur le Christ et que ces yeux restent là, fixés sur le Christ. Si nous faisons notre part, si l'obéissance est ancrée dans notre cœur, nous pouvons avoir l'assurance absolue qu'aucune chose dans ce monde peut nous faire avoir peur ou bien nous faire craindre, car, je répète, l'obéissance à Dieu est votre garantie absolue de vous débarrasser de vos craintes inutiles. Ayez ça en tête, mettez ça dans la tête. Parce que c'est la seule vérité, c'est pas facile si vous voulez, mais c'est Dieu qui donne la force. Tout ce dont vous devez, donc tout ce dont vous avez besoin et que vous devez faire, c'est de dire, bon, je ferai ma part. Essayez-le. Ça ne sera pas facile, vous n'arriverez pas d'un jour à l'autre, non. Mais chaque fois que vous avez peur, arrêtez-vous de dire, de quoi est-ce que j'ai peur? Ensuite, examinez-vous vous-même. Où est-ce que vous avez péché? Où est-ce que vous avez commis des péchés dont vous ne vous êtes pas encore repenti? Alors, repentez-vous devant Dieu et vous verrez que ces sentiments de crainte inutiles disparaîtront. Ce n'est pas moi qui vous dis, mes frères et sœurs, c'est Dieu. Je prends ces exhortations de la Bible. Alors, en fin de compte, laissez-moi terminer au moins par une exhortation biblique à nouveau. Romains chapitre 8. Paul a fait preuve de courage. Paul nous a montré ce que c'est que la joie. Un homme qui a beaucoup souffert aussi nous a montré ce que c'est que la joie. Paul n'a pas seulement écrit sur le succès en ce qui concerne lors des épreuves, mais il a fait preuve de par sa vie même, comment vraiment mettre en pratique ce qu'il a prêché. Lorsque Paul dit « Soyez toujours joyeux », il l'a prouvé qu'il l'a été. Lorsque Paul dit « Dites de tout votre cœur », il a prouvé que c'est possible. Ce n'est pas lui qui faisait, c'est le Christ en lui, le Saint-Esprit. La même chose avec vous si vous êtes baptisé, si vous avez reçu le Saint-Esprit. C'est Dieu qui fait, mais vous devez vous totalement vous soumettre à Dieu. C'est ça le secret. Romains chapitre 8, pour terminer, je répète, verset 37, il dit, il parle des souffrances humaines sur cette terre. Dans toutes ces choses, dit-il, verset 37, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Nous parlons de victoire par celui qui nous a aimés. Voyez-vous, c'est toujours Dieu, le Christ. Car j'ai l'assurance, c'est Paul qui parle, et c'est vous qui devrez aussi pouvoir en dire autant, que ni la mort. Il y a des gens qui ont peur de la mort. Non, n'ayez pas peur. La mort peut être une occasion de joie, si vous comprenez la vérité, car vous entrez dans la paix éternelle de Dieu. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les démons, ou ni quoi que ce soit, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur. Ce sont des paraphrases pour montrer que rien au monde, ni les profondeurs, ni aucune autre chose, aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui manifeste en Jésus-Christ. Notre Seigneur. Mes frères et mes sœurs, si vous avez ce sentiment, de quoi auriez-vous peur? La réponse est simple. De rien, car Dieu est votre garantie absolue que vous pouvez vivre dans la paix maintenant et que vous vivrez dans la paix à tout jamais, en toute éternité, je dirais, avec l'espoir de pouvoir faire la volonté de Dieu, servir ceux qui sont autour de vous et avoir ce sentiment que Dieu, qui est la paix éternelle, ce même sentiment sera en vous pour toute l'éternité. Remerciez-en Dieu et franchement, ayez le cœur tranquille. Ayez la paix d'esprit. Face au danger, il y a des dangers, il y aura des dangers, mais face au danger, souvenez-vous de ces versets. Souvenez-vous de tous ces versets dans la Bible. Et remerciez-en Dieu. Dites Dieu, merci de ce que tu es avec moi. Je prends ta main. Prenez sa main. Marchez avec lui.